Solucop, le rendez-vous incontournable des copropriétaires et syndics, jeudi 2 avril 2026 à Toulouse, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Ravi de vous retrouver sur les antennes de Radio Immo et Radio Territoria. Nous continuons de vous faire vivre cette quatrième édition de Solucop, ici depuis le Stade Toulousain à Toulouse, où je reçois depuis ce matin de nombreux invités. Et on continue cet après-midi. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que l'ensemble des émissions sont disponibles après leur diffusion en replay sur l'ensemble des plateformes, et notamment donc sur Radio Immo et Radio Territoria. Déborah Gubin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du développement de Global Copro. Vous nous expliquerez dans quelques instants ce que vous faites chez Global Copro. À vos côtés, Antoine Dagorneau, bonjour.
Bonjour.
Directeur technique en diagnostic immobilier, Exim Toulouse Capitole. Merci à tous les deux, en tout cas, de répondre gentiment à mon invitation. Alors, est-ce que justement, vous pouvez expliquer chacun votre rôle? Déborah, Global Copro, vous développez, c'est ça, des outils, des services pour accompagner les opérateurs, mais aussi les gestionnaires. Concrètement, vous intervenez à quel moment de la vie de la Copro?
À tous les moments.
À tous les moments, vous êtes partout.
Non, effectivement, mais déjà, merci pour l'invitation. Bien chez vu. Global Copro, on va développer des services aux opérateurs. Quand on dit opérateurs, chez nous, c'est la communauté professionnelle qui opère sur les copropriétés. Donc, on va retrouver principalement des diagnostiqueurs, mais également des architectes, des géomètres, des thermiciens et des BET. Donc, on leur propose des services d'accompagnement professionnel. Donc, là, on va vraiment accompagner leur parcours avec de la formation, avec de l'équipement, avec du logiciel, avec du coaching, avec des services de mise en relation, etc. Donc, c'est focus sur leur parcours professionnel. Les gestionnaires de copropriété, on va plutôt les accompagner pour mieux faire appel à ces opérateurs, pour trouver plus d'outils pour expliquer leur mission en AG et faciliter en fait le fait que les opérateurs travaillent mieux avec les gestionnaires et qu'in fine, toutes ces opérations soient mieux rétribuées aux copropriétaires.
Donc si j'ai bien résumé, pour les opérateurs, vous êtes plutôt sur la formation et pour les gestionnaires, vous aidez à faciliter finalement la relation entre eux-mêmes et puis les opérateurs.
Oui, on fait de la formation un peu pour les deux profils, mais effectivement, on équipe plutôt les opérateurs et on accompagne les gestionnaires et les syndics dans la compréhension de ces missions que sont les DTG, les PPT, les DPE collectifs.
Antoine Dagorneau, je disais donc côté Exim, vous êtes sur le diagnostic immobilier. Votre rôle, c'est d'évaluer, c'est ça, l'état des bâtiments. Comment ça se traduit très concrètement?
Alors oui, c'est d'évaluer les bâtiments, mais en fait, on va commencer nos missions dès le début de la vie d'une copro, par la mise en copropriété, par le DTG qui est nécessaire à la mise en copropriété. On va l'accompagner tout au long de sa vie, un petit peu comme Déborah, sur tout un tas de diagnostics autour de l'amiante ou d'autres sujets. Et on va faire aussi également le plan pluriannuel de travaux qui permet de faire un état initial et d'anticiper sur les 10 prochaines années tous les travaux qui peuvent être envisagés sur cette copropriété.
Aujourd'hui, on parle beaucoup du DTG, le diagnostic technique global, qui donne une vision normalement complète, de l'immeuble. Il y a aussi le 3PT qui planifie les travaux, lui, dans la durée. Concrètement, est-ce que ces outils, aujourd'hui, vous pouvez répondre tous les deux, hein, évidemment, sont bien utilisés?
Tu veux commencer?
Oui. Alors, bien utilisés, oui. Après, notre rôle, c'est aussi de faire de la pédagogie auprès des syndics et des copropriétaires qui sont lecteurs de ces outils-là pour qu'ils soient justement bien lus et bien utilisés. Il y a du travail en amont et aussi après à restitution pour qu'ils soient bien compris par tous.
Déborah? Alors,
moi, je compléterais. Ils sont bien produits parce qu'ils découlent d'une obligation réglementaire. Donc, les copropriétés, aussi bien au niveau de leur conseil syndical, du syndic que des copropriétaires, sont dans l'obligation de les fournir, sont parfois un peu contraints. Mais je mettrais une nuance sur le fait qu'ils ne sont pas toujours bien apprivoisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette contrainte, elle est parfois vue comme une obligation qu'on va faire la plus vite possible, la moins chère possible, et qu'on va laisser, dont le résultat va dormir dans un tiroir.
C'est lequel des deux qui est obligatoire?
Ça dépend des cas de figure.
D'accord.
Donc vous avez le DTG, comme on l'a dit, pour la mise en copropriété, pour le début de la vie d'un bâtiment, pour qu'il soit déclaré comme étant une copropriété, va être obligatoire. Il y a quelques cas de figure aussi où il est obligatoire pour obtenir certaines aides dans certaines agglomérations. Pardon. Donc ça, c'est ponctuel. Et il y a le cas aussi de la remise dans l'activité d'un immeuble en péril. Le 3PT, lui, projet de plan pluriannuel de travaux, est obligatoire pour toutes les copros d'un certain âge. Alors avec évidemment des nuances en fonction du nombre de lots et les échéances de la réglementation depuis 2023. Mais il va être obligatoire de toute façon aussi en renouvellement d'ici 10 ans. Donc ce projet, qui découle d'une obligation de la loi climat et résilience, va devoir être produit, peu importe la façon dont vous le faites. Nous, nos métiers, c'est de le produire au mieux, dans les meilleures conditions, mais aussi avec les meilleures ambitions. Et pour ça, il faut que les opérateurs comme Antoine, il faut que les gestionnaires et les syndics travaillent de concert avec le conseil syndical et puissent aussi expliquer leur travail.
Ce sont des outils en tout cas complémentaires l'un et l'autre ?
Complémentaires, ils ont la même base technique, ils n'ont pas la même vocation. Et vous allez avoir des différenciations bien sûr, notamment au niveau de l'énergie et notamment au niveau de l'échéancier des travaux.
Alors justement Antoine, pour rentrer un peu plus dans le détail, ça se passe comment d'un point de vue opérationnel, vous, quand vous intervenez justement dans les copros, c'est quoi les principales difficultés aussi que peut-être vous rencontrez sur place ?
Alors, sur le plan opérationnel, on va commencer par faire des échanges avec le syndic pour récupérer tout un tas d'informations. On a une liste assez complète de pièces qu'il faut qu'on récupère pour étudier comment est fait le bâtiment, etc. On a aussi un listing avec les occupants, parce que c'est pas forcément toujours les copropriétaires qui sont sur place. Et je reviendrai sur le sujet après, mais c'est aussi ça une des difficultés. Ensuite, on intervient pour faire, dans un premier temps, le DPE collectif, donc de l'immeuble entier. C'est là que ça peut être une difficulté parce que, comme je vous le disais, on a parfois des locataires qui ne sont pas du tout intéressés, qui n'ont pas été prévenus en amont par leur propriétaire qu'on doit intervenir, donc ils ne veulent pas nous laisser rentrer. On doit respecter un certain échantillonnage pour avoir un DPE qui soit fait correctement en fonction de la composition du bâtiment. Et à la suite de ça, on va inspecter les parties communes, l'extérieur, la façade, les toitures, quand elles sont accessibles, pour contrôler et pour vérifier que l'immeuble est en sécurité. En fait. Après, on va évidemment rédiger un rapport, et ce rapport, on va pouvoir aller l'expliquer en AG. Cette partie-là, c'est une partie relativement importante, parce qu'elle permet parfois d'éclaircir des rapports qui sont volumineux, chargés en informations, qui ne sont pas forcément lisibles pour tout le monde.
Pour tout le monde, ouais. Donc vous avez un vrai rôle de pédagogie, quoi.
Complètement.
Et votre intervention peut faire accélérer aussi les choses dans la compréhension et dans la prise de décision ?
Oui, ça peut faire, des prises de conscience, bien sûr, oui, tout à fait.
Aujourd'hui, Déborah, comment est-ce que les outils que vous développez, par exemple, pour les opérationnels, les aident dans leur quotidien ?
On en a parlé il y a quelques instants. La formation, ça, je dirais, c'est l'outil initial. Il faut d'abord que les opérateurs eux-mêmes soient bien formés. Ensuite, on va développer des outils très techniques, c'est-à-dire qu'on a nos propres logiciels en interne qui permettent de produire ces rapports-là. Donc là, on est plutôt dans la technicité. Et après, on va leur proposer tout un tas de partenaires, notamment, qui facilitent la prise de rendez-vous, qui facilitent la préétude des aides à la rénovation énergétique. Parce qu'un rapport de 3PT ou même de DTG, en termes d'estimation des travaux, ça peut parfois être un peu violent pour une copro. Si vous pouvez déjà... financièrement parlant. Okay. Quand vous annoncez à une copropriété qu'elle en a potentiellement pour 8 millions, c'est toujours un petit peu plus violent que quand vous lui dites « oui, mais si vous faites appel aux bonnes aides et si on vous fait déjà une préétude, potentiellement, j'invente, hein, vous en avez pour 200 euros par mois par personne pendant 20 ans. » L'appréhension psychologique n'est pas la même.
Bien sûr.
Je ne dis pas qu'il faut faire de la démagogie, je dis que la façon de présenter les choses peut changer et peut inciter la copro à passer vraiment le cap de cette rénovation énergétique qui est dans son intérêt. Hein. De nouveau, là, on parle de préservation patrimoniale. Antoine l'a dit, on parle de sécurité parfois même des habitants. Donc, de toute façon, il va falloir passer le cap. Nous, notre métier chez Global Copro, c'est de dire, OK, mais comment on passe ce cap ? Est-ce qu'on passe en collaboration avec les opérateurs ? Est-ce qu'on passe avec des facilitateurs, comme ce que nous, on prétend être chez Global Copro ? On crée du liant, en fait. On va proposer aussi des outils de présentation qui sont un petit peu plus... communicationnel, qui soit plus marketé, si je puis dire, pour que tous les copropriétaires puissent comprendre de quoi il s'agit. Et on va leur présenter des opérateurs qui correspondent, comme ici, localement, à des agents locaux, à des agents qui sont implantés sur le territoire et qui sont conscients aussi de leurs enjeux. Parce qu'on ne fait pas de la réno à Paris comme à Toulouse.
Vous arrivez à mesurer l'efficacité de vos outils ?
Alors, sur les outils techniques, oui, forcément. Ouais. Parce qu'on voit que la production des rapports est en accélération et qu'on a quand même une... chez nous, pour donner un peu de chiffres, chez MyDTG, qui est notre logiciel, on a une accélération de plus de 200% cette année. Donc, on voit que c'est quand même assez conséquent. Sur la formation également, parce qu'on a beaucoup de demandes. Et puis, on a des gens qui reviennent chez nous pour des montées en compétences.
C'est quoi la formation qui est le plus demandée ?
Chez nous, les formations qui sont plus demandées en complément, c'est les formations de terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vous former au DTG, au PPPT, à peu près partout. Vous former sur une vraie copro, où vous allez rentrer sur votre premier bâtiment et se dire, OK, ben maintenant, je suis sur site, je commence par quoi ? Comment je dialogue avec le syndic ? Comment je dialogue avec le conseil syndical ? Qu'est-ce que je fais quand on me ferme une porte ? Tout ça, c'est des petits mécanismes. Si on n'a pas eu des cas de figure ou si on n'a pas l'expérience, c'est trop compliqué à reproduire pour un opérateur qui se lance, par exemple. Nous, chez Global Copro, on a 250 entreprises, donc on a un petit peu de feedback quand même, si je puis dire, de la jurisprudence, des bonnes pratiques.
Comment se noue la relation, justement, entre vous d'un côté et puis les opérationnels ? Ce sont eux qui viennent vous voir directement pour se former ? Comment ça fonctionne, la première relation, en fait, la mise en relation ?
Alors, ça peut commencer souvent par la formation. Après, ça vient aussi souvent d'un besoin de logiciel, d'arriver à produire plus, produire mieux, d'être mieux équipé. Et puis, on a aussi une forte demande de mise en relation, justement. Nous, on a ce rapport-là avec les gestionnaires où on leur offre de manière totalement gratuite des facilités de compréhension, des outils pédagogiques qui viennent nous interroger de manière très naturelle en disant, ben, justement, comme vous m'avez aidé à comprendre la mission, vous n'auriez pas quelqu'un de pertinent pour la mission.
Okay. J'imagine qu'il y a un vrai enjeu aussi chez vous dans vos logiciels, en tout cas dans vos formations aussi que vous proposez aux opérationnels, c'est que d'un point de vue réglementaire, ça évolue tout le temps. Donc là aussi, il faut se mettre à la page, j'imagine, au niveau des formations, que ce soit pour vous, vous former, et vous, qu'il y ait des formations qui soient adaptées, justement, aux nouvelles réglementations.
Oui, bien sûr, c'est un métier dans lequel il faut se tenir à la page en permanence. C'est très important de rester informé et de suivre la réglementation pour pouvoir y répondre correctement, en fait, tout simplement.
Je dirais qu'aujourd'hui, le gouvernement nous demande une vraie gymnastique, aussi bien cérébrale que d'adaptation. Il va falloir adapter les outils, il faut parfois aussi adapter les façons de faire, donc on doit être totalement et tout le temps en veille.
Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour prioriser les travaux ? Vous avez une réponse aussi à ça ?
Alors, pour moi, de mon point de vue, c'est assez simple. On va tout de suite regarder en priorité ce qui est de la sécurité des personnes, du bâti. C'est, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. J'ai un exemple assez concret, très récemment, d'une fenêtre en partie commune, une fenêtre basse qui n'était pas verrouillable. Un enfant aurait très bien pu tomber par cette fenêtre. Les copropriétaires qui vivent là depuis des années le savent, mais n'ont jamais forcément fait le lien entre cette fenêtre et un risque potentiel. Moi, c'est la première chose que je vois et c'est ces choses-là que je veux mettre en priorité face aux copropriétaires pour qu'ils puissent faire attention et contrôler ces risques-là. Donc c'est vraiment en premier lieu cette partie sécurité. Ensuite, d'abord pour les personnes, ensuite pour le bâti, donc les fissurations, les balcons, ce genre de choses. Et après, en dernier terme, on va parler de la partie énergétique.
Voilà. Un petit mot quand même sur la table ronde sur laquelle vous allez intervenir tout à l'heure, du 3PT au diagnostic structurel. C'est quoi le diagnostic structurel ?
Le diagnostic structurel n'a rien de secret. Comme son nom l'indique, c'est un diagnostic très spécifique de la structure des bâtiments. En fait, vous avez des mises en péril, ce qu'on appelle des mises en péril des bâtiments qui peuvent venir apparaître à cause de problèmes structurels. Donc de manière très concrète, un bâtiment qui s'effondre. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Pourquoi ? Parce que selon une loi qui est parue le 9 avril 2024 et un arrêté qui vient de paraître du coup là à l'été, c'est aujourd'hui la commune d'une ville qui peut, selon son jugement, exiger que certains diagnostics structurels soient faits sur certains bâtiments. En fait, on est là plutôt au-delà de la projection, on est sur un mécanisme de prévention. C'est la grosse différence que vous allez pouvoir trouver avec le 3PT, où on est plutôt dans la virtuosité de vouloir bâtir mieux, de vouloir rénover des bâtiments pour qu'ils soient conformes à nos ambitions écologiques et énergétiques. Dans le diagnostic structurel, on va plutôt être dans la conservation du bâti et plutôt dans l'attention très urgente, si je puis dire, de la mise en danger de personnes, mais là, carrément, de la mise en danger de peut-être un bâtiment, mais deux bâtiments, trois bâtiments. Après, ça fonctionne en domino. Donc là, on va venir analyser beaucoup plus ce qui est du ressort de la vétusté du bâtiment, de son impact, enfin de l'impact du climat sur le bâtiment et de l'usage aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a une grosse responsabilité de l'utilité d'un bâtiment. Vous pouvez faire tous les projets que vous voulez sur un bâtiment et vous pouvez les diagnostiquer comme vous voulez. C'est comme tout objet. S'il est maltraité, à un moment donné, il va finir par casser.
Évidemment. C'est quoi le message que vous allez vouloir délivrer tout à l'heure en priorité, justement, parce qu'on parlait de priorisation, mais en priorité, le message que vous voudriez laisser sur la table ronde tout à l'heure, l'un comme l'autre?
De notre côté, c'est que nous, on est là pour, comme je le disais tout à l'heure, faire de la pédagogie et de la prévention, et que dans ce genre de cas où on repère des signes qui nous paraissent être délicats, c'est vraiment faire du signalement pour justement passer la main à des spécialistes qui vont, eux, réaliser ce diagnostic structure.
Le mot que je voudrais dire, c'est ne sous-estimez pas la valeur de lanceur d'alerte du diagnostiqueur. C'est lui qui est là pour vous faire la radio de votre bâtiment et pour vous diriger après. Donc il a effectivement une valeur de diagnostic, mais également une valeur de conseil. Et donc ça c'est le mot d'ordre que je voudrais passer. Tout commence d'abord par une bonne observation visuelle d'un bâtiment. Et après, on peut partir sur des projets, sur du diagnostic structurel ou autre. Mais le diagnostiqueur, il est aussi là pour être votre conseil et votre allié sur votre copropriété.
Avant de vous remercier et de vous libérer, dernière question que je pose à l'ensemble des invités qui viennent ici même. En dehors de cette interview, en dehors de la table ronde de tout à l'heure, c'est quoi l'intérêt pour vous, l'un comme l'autre, d'être présent sur ce type d'événement Solupro?
Je laisse la parole à Antoine, on est dans son fief.
Pour nous, c'est important d'être ici parce que on est chez nous, comme vient de dire Déborah. On a l'envie de montrer aux acteurs des copropriétés, de la copropriété toulousaine, qu'on est là, qu'on est présent. Évidemment, comme tout le monde, on a besoin de travailler, donc c'est aussi pour faire du business.
Déborah ?
Moi, je suis présente parce qu'il y a la plupart de nos partenaires qui sont là. Mais je suis présente aussi pour représenter mes adhérents, comme Antoine, et il y en a d'autres ici aussi, pour montrer qu'on continue à œuvrer en qualité et en sécurisation, si je puis dire, de nos diagnostics et de nos missions.
Un grand merci à tous les deux.
Merci.
Antoine, il revient quand le soleil ici à Toulouse? Parce que je croyais que c'était sympa, Toulouse.
Dès que Déborah sera rentrée chez elle, normalement.
C'est envoyé. Allez, merci à tous les deux d'avoir répondu gentiment à mes questions. Merci à vous d'autres fidélités. On revient dans quelques instants avec une nouvelle émission, toujours ici, depuis cette 4e édition de Solucop au Stade Toulousain. A tout de suite.
Solucop, le rendez-vous incontournable des copropriétaires et syndics, jeudi 2 avril 2026 à Toulouse, sur Radio Immo et Radio Territoria.